Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Europe, unique objet de mon ressentiment. Racine aurait pu l'écrire, hein. Mais voilà, des élections. Et alors, ce qui est formidable, comme dans toute soirée d'élection, comme dans tout lendemain d'élection, les grands partis, ils ont tous gagné. Et ceux qui n'ont pas gagné, alors c'est magnifique, ils se retrouvent en disant « Nous avons 3 ans pour reconstruire ». On les voit, les maçons, au pied du mur, en train de reconstruire. Nous allons évidemment, aujourd'hui, parler d'Europe dans tous ses états, car c'est l'Europe qui est dans tous ses états. Et nous allons recevoir l'intellectuel québécois Mathieu Bock-Côté.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Et les sanglots longs du Rassemblement National, on a gagné. Les sanglots longs de la Renaissance, on a gagné. Les deux grands partis sont heureux. Ils sont béats, ils ont tous gagné. Macron va rester et va gagner les présidentielles. C'est le 3e tour, etc., etc. Est-ce aussi simple? Évidemment que non. On en parle.
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
Ils ont voté, puis après. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé.
Je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire entendre l'un des plus immenses poètes de tous les temps, Léo Ferré, magnifique. Ils ont voté. Et puis après, alors il parlait. Ah, c'était quand? Grand-père raconte, c'était la préhistoire, une France socialiste, alors que le Parti Socialiste, mené par Ravel Glucksmann, a fait 6,3% des voix, alors que la France Insoumise de Mélenchon n'a même pas fait ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est chamboulé. Alors évidemment, on parle de l'Europe. Mais en 2 mots, moi je vais essayer de résumer cela, si vous voulez, si on regarde avec un tout petit peu de distance, d'abord en France. Nous parlerons de l'Europe évidemment et de le reste avec Mathieu Bock-Côté, et on continuera à parler dans toute l'émission de ce qui s'est passé hier, parce que ce n'est pas rien. Ce qui s'est passé d'abord hier, il faut le dire, bon, on a parlé de l'abstention qui a notoirement diminué, ce n'est pas rien. Mais je continue à le dire, je l'ai dit ici dans Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio, que, et ça s'est vraiment confirmé, que c'était un référendum pour ou contre la politique de Macron. Or, de ce point de vue-là, ce référendum a donné quand même, les macronistes n'ont pas lieu de se lamenter, puisque effectivement le Rassemblement National a gagné, était en tête, mais d'une courte tête.
0,1 d'un point d'écart.
Voilà, donc ce n'est pas franchement massif, on s'attendait à 4 à 5 points d'écart, ce n'est pas le cas.
Il y a d'ailleurs autre chose qui est intéressant à soulever, André Berkoff, c'est que le score du Rassemblement National est plus faible que celui qu'il avait obtenu aux dernières européennes où il était déjà en tête.
Absolument, et ça c'est quelque chose dont on a à peine mesuré, et pour ça les erreurs, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans les sondages, ils n'ont pas vu d'abord l'extraordinaire baisse, et je dirais presque effondrement des Républicains, en fonction de ce qu'on attendait de François-Xavier Bellamy et de Laurent Wauquiez. On remarque, ils étaient montés jusqu'à 15%, ils ont fait 8% à peu près, etc. Et puis la montée des écologistes et les Verts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un peu de recul et qu'on regarde, il y a quelque chose de très clair. C'est que si l'on reprend les prolégomènes, les paradigmes de Guy-Louy, je veux dire les thèses du démographe et géographe Christophe Guy-Louy sur la France périphérique, c'est très clair. La France périphérique, en 2 mots, c'est la France des petits artisans, des petits commerçants, des petites villes, de la ruralité, etc., a voté en majorité Rassemblement National, et les métropoles mondialistes, enfin les métropoles, ont voté en majorité Macron. Et ce que Macron a réussi, et là il faut le dire, comme François Mitterrand, il faut toujours voir l'histoire, vous savez, rien n'arrive nouveau, selon on n'est pas dans un univers d'OVNI qui arrive de la planète Mars. François Mitterrand, rappelez-vous, avec son programme commun, 2 ans après, il lessivait le Parti communiste. Je rappelle qu'il y a 40 ans, le Parti communiste faisait encore, il y a 45-50 ans, 20 à 130% des voix, il l'a lessivé. En quelques années, le Parti communiste, aujourd'hui, on avait vu, la liste Jan Brossa ne pourra même pas non seulement rembourser et aura zéro député. C'est quand même fabuleux pour un parti qui représentait presque un tiers des électeurs il y a 50 ans.
Qu'est-ce que c'est dans l'histoire? Beaucoup de mairies, d'ailleurs, on le verra au municipal.
Oui, beaucoup moins qu'il ne contrôlait moins de la ceinture rouge, mais enfin pas mal, effectivement. Deuxièmement, donc, il y a eu, si vous voulez, nettoyage, effectivement, de la gauche. Avec Hollande, alors Hollande, lui, il a fait encore mieux, il a lessivé le Parti Socialiste, son propre parti, avec une maestria qui n'a d'égal que ses résultats. Macron n'avait qu'à se baisser pour ramasser la mise, et il l'a ramassé, il faut le dire, très habilement. Et à droite, ça a été la même chose, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que si autour de lui, il a eu toute une équipe de gens qui étaient avec Strauss-Kahn 10 ans avant, il faut bien le dire qu'il a eu à droite les jupéistes, un certain nombre de gens qui sont venus de lui, et c'est arrivé au plan, il faut le dire aussi, les Républicains se plaignent et gênent, mais quand ils laissent un Jean-Pierre Raffarin leader des Républicains, dire « moi j'adhère au programme Renaissance d'Emmanuel Macron », il faut quand même savoir où on est. Si vous voulez, ils se sont retrouvés effectivement coincés entre « nous on ne parle pas au Front National, on n'aura jamais d'accord avec le Front National, on ne les connaît pas, on se bouche le nez, on ne veut pas les voir ». Très bien. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une partie des Républicains qui sont partis, mais depuis longtemps avec armes et bagages, Édouard Philippe le premier, mais combien d'autres? Et ils se sont retrouvés fort dépourvus quand la bise fut venue. Et la bise aujourd'hui, elle est entre quoi? Elle est entre les somewhere et les anywhere. Entre les gens, si vous voulez, des arbres et les gens des pirogues. Entre les gens enracinés et les gens qui se sentent très bien dans le monde entier.
Et on peut le dire d'ailleurs, parmi les députés européens élus sur la liste Rassemblement National, il y a au moins deux anciens députés qui faisaient partie de l'UMP à l'époque, en tout cas des Républicains. C'est Thierry Mariani ou Jean-Paul Garot, député de la Gironde.
Tout à fait, tout à fait.
Patrick Roger ce matin.
Alors, il y a eu quand même moins de députés, je dirais, Républicains ou jupéistes ou autres qui sont passés au Front National que de ceux qui sont passés à République en Marche. Mais, tout à fait, vous avez raison, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, c'est très clair, à tort ou à raison, et moi je ne juge pas en termes de moralité, parce que c'est pas la moraline qui fait effectivement la politique, c'est que, qu'est-ce qu'il avait réussi, Mitterrand? Mitterrand avait réussi le programme commun. C'est grâce au programme commun, c'est-à-dire c'était les socialistes, rénovés, le PS, les communistes et les radicaux de gauche. Il avait fait son programme commun, ça lui a permis de remporter les présidentielles. La droite, ce qu'on appelle la droite, qui à mon avis n'existe plus aujourd'hui, alors on parle de l'extrême droite d'un côté, encore qu'il faudrait vraiment nuancer tout cela, et d'un autre côté le centre progressiste, etc. En fait, ça se passe plus du tout comme ça. Si les conservateurs veulent garder quelque chose, il faut qu'ils sachent avec qui ils vont s'unir et comment. Et aujourd'hui, c'est tout le problème, tant que effectivement on considérera que le Rassemblement National, ce sont des gens infréquentables, on les laisse avec eux alors qu'il y a des dizaines de millions de Français qui votent pour eux, et ben ce sera ça. Et ils se retrouvent devant les terrifiants pépins de la réalité comme dont parlait Prévert, ou la réalité rugueuse à étreindre dont parlait Arthur Rimbaud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, Macron, ce qu'il a compris, il a dit, moi, je vais rassembler tout le monde sur une politique, et puis le reste, je le laisserai à Marine Le Pen, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais là, on dit, ben voilà, il a gagné, puisque dans 3 ans, eh ben ça va se retrouver Macron contre Le Pen, on va rejouer 2017, et Macron va gagner. On sent le large sourire de satisfaction. On oublie simplement une chose, et je crois que c'est très important, et dans les 3 ans à venir, ça va beaucoup jouer, c'est qu'aujourd'hui, les populistes en Europe, etc., les souverainistes, se sont implantés de façon assez forte, on le verra dans la seconde partie de cette émission, qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui est là, qu'est-ce qui va se passer économiquement et socialement, comment les élites mondialisées, très important, on fait tous partie des métropoles mondialisées, comment elles vont tendre la main aux déshérités, aux gens oubliés, aux laissés pour compte, et les rapatrier, et les réintégrer dans la société, ou alors effectivement, on est parti vers des affrontements dont nul ne connaît la suite. Je crois qu'il est là le problème. Aujourd'hui, tout a l'air figé, tout a l'air... Mais vous savez, 3 ans,
tout
c'est
a bougé là, en tout cas.
Et là, absolument.
D'autres choses d'ailleurs, d'autres points, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le résultat de ces européennes, mais que vous vouliez soulever, André Bercoff, le crash rapidement de la France insoumise, qui se retrouve à 6 points.
Tout à fait. Erreur tragique historique, si vous voulez, de Jean-Luc Mélenchon, qui a hésité entre deux postures, la posture populiste. À un moment donné, il s'est affiché bruyamment avec les gilets jaunes, et puis il était l'euro, l'Europe, etc. Mais il n'a pas fait quelque chose qui est, et c'est toute sa contradiction. Il est assez proche de Marine Le Pen sur le social, et évidemment pas sur l'immigration. Sur l'immigration, ils sont aux antipodes. Or, Marine Le Pen, elle a joué sur deux moteurs. Elle a dit, écoutez, il faut que vous soyez protégés, donc immigration, il faut que vous soyez en sécurité, etc. Et les mesures sociales. Mélenchon, il a franchi le Rubicon, mais il s'est arrêté au milieu du gué. Et le problème de Mélenchon, c'est qu'il paye une erreur de stratégie totale, où il fallait aller clairement à gauche, et récupérer toute la gauche, et dire, voilà, moi, je m'engage là-dessus. Et puis, résultat des courses, il est derrière ce parti socialiste moribond.
Non, il est repassé devant, mais alors d'extrême justesse.
D'extrême justesse. Ouais, enfin, ils
représentent la moitié du score des écologistes. Autre flop, rapidement, le flop des bulletins jaunes. Plusieurs listes se revendiquaient des gilets jaunes.
Alors écoutez, moi, on peut pas me reprocher d'avoir dit qu'une liste des gilets jaunes aux européennes était une aberration mentale. C'est un couteau sans lame auquel il manque le manche. Ça n'avait aucun sens, évidemment. C'est pour ça que les gilets jaunes, en majorité, vous vous rappelez, il y a eu Ingrid Levavasseur, il y avait eu beaucoup de gens qui ont tenté. Les gilets jaunes étaient absolument, c'était pas ça. Les gilets jaunes, à mon avis, on verra, se manifesteront lors des municipales. Il y aura à ce moment-là une formation de quelque chose. Pour les européennes, ça n'avait aucun sens.
Allez, vous continuez. Vous nous appelez au 0826 300 300. Et la France électorale est dans tous ses états. Berkoff est dans tous ses états, mais par construction et par nature. Vous laissez aussi vos commentaires sur le Facebook Live de Berkoff dans tous ses états. Exemple, Rasbo Rasbora sur Facebook qui nous dit, écoutez monsieur Berkoff, si vous êtes honnête, vous reconnaissez que le seul gagnant est celui qui passe le premier la ligne d'arrivée, donc le Rassemblement National. André Berkoff n'a pas vraiment dit le contraire. Il disait juste qu'il était passé d'extrême justesse. On s'attendait à une victoire absolument fracassante. Continuez.
C'est vrai.
Continuez à commenter, continuez à nous appeler 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour.
Je serai content quand tu seras mort, les canailles. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre.
Mon Dieu.
Je serai content d'avoir ta peau.
Ouais, c'est un duo historique. Serge Gainsbourg et Eddy Mitchell, vieilles canailles. Mais hier, on a entendu deux vieilles canailles. Attention, pas des moindres, pas des moindres. Il y avait d'un côté, à ma gauche si on veut, Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen, partisan farouche de la liste Renaissance et d'Emmanuel Macron, dont il est l'un des conseillers du soir. Et à ma droite, Gilbert Collard, avocat, député du Rassemblement National. Et attention, la rencontre, et regardez, écoutez plutôt, c'est pas mal.
Les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con.
S'il vous plaît, monsieur Collard, monsieur Collard, oui, c'est insupportable, coupez-leur le micro.
Nous voici au très beau temps de la Troisième République. Vous voyez que le passé a du bon. À ce moment-là, ils s'insultaient comme des fous. Et ben là,
ils échangeaient des coups de poing d'ailleurs dans l'Assemblée nationale.
Là, ils n'ont pas échangé de coups de poing, mais ils se sont bien insultés. Effectivement, je rappelle juste le contexte. C'était que ça a commencé parce que Gilbert Collard a dit il n'y a pas un représentant de La République en Marche ici, il y en a deux. C'était avec Cohn-Bendit. Et c'est un fait. Et alors, les deux animateurs, effectivement, ont pris plutôt le parti de Cohn-Bendit, il faut le bien dire, en disant « Monsieur Collard, taisez-vous ». Enfin, Cohn-Bendit parlait autant. En tout cas, voilà, c'était assez animé, donc, sur le plateau de TF1, et je pense que ça a été de même sur d'autres plateaux télévisés.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Donc vous êtes en train de me dire que j'étais radié.
Oui, vous avez été radié parce que votre carte d'électeur est revenue.
Mais revenue de quoi ?
Est revenue en fait de votre adresse.
Genre il m'écrit, il m'envoie une nouvelle carte.
Il vous envoie une carte en simple.
Courrier, moi.
En
même pas recommandé.
En simple. Et donc elle est revenue à la mairie. Donc vous êtes radié pour cela.
C'est super. Je ne peux pas voter alors que j'habite depuis 4 ans au même endroit.
Voilà.
Vive la République. Et alors, je suis pas toute seule, apparemment.
Ah non, attendez, il y a des informations de tout le monde.
On est combien à avoir été radié à Paris ?
80, non, la radiation, c'est supérieur à ça. Il y a 80 000 fichiers sur Paris qui posent problème.
Mais c'est dingue.
Bah oui, je sais.
Et pourquoi ?
Parce qu'il y a une bascule du fichier de la mairie à l'INSEE.
Et alors ?
Et ça, vous, bah, vous travaillez sur RTL, vous travaillez, vous pouvez en parler autour de vous.
Oui, mais nous, on parle de cochonneries, grosse
tête. Oui, ça, je comprends bien, mais on va parler sur RTL, il y a des journalistes qui connaissent le problème, on en parle beaucoup.
Bah, c'est dingue, 81 000, c'est beaucoup. Oui.
Karine Le Marchand, vous avez reconnu Karine Le Marchand, L'amour est dans le pré sur M6, elle fait aussi les grosses têtes de RTL, d'où son allusion.
Et sa mésaventure nous a fait beaucoup rire sur Sud Radio, encore que d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas la seule dans le cas à ne pas avoir pu voter.
Absolument. Et il y a eu un vrai problème hein, quand même, parce qu'il y a eu des électeurs empêchés de voter qu'à radier des listes électorales. Alors ça ne va pas faire annuler les élections, mais il y en a eu beaucoup. Catherine Tournier qui raconte à Paris dans le 20e arrondissement, on lui dit, elle est déradiée. Elle ne savait pas comment, pourquoi, etc. Elle n'avait pas reçu ça à la carte électorale. Et les assesseurs m'ont expliqué, dit Emma, que ma carte d'électeur était revenue en mairie, que c'est la raison de ma suppression des listes. Il dit, c'est scandaleux, alors que mon ancienne adresse dans le quartier dépend du même bureau. Et ce changement de trottoir date d'il y a 3 ans et demi, etc. Il dit, c'est quand même incroyable, elle a raison. On t'incite à aller voter à longueur de journée, et là, par rigidité administrative, on m'empêche d'exercer mon droit et mon devoir de citoyenne. Et il y en a eu beaucoup. Il en a eu aussi à Toulouse. Alors à Toulouse, de nombreux électeurs toulousains ont été radiés à tort des listes électorales, a indiqué dimanche la mairie de Toulouse qui entend saisir le ministère de l'Intérieur. Vous voyez, c'est pas une petite chose. Et pour Jean-Luc Bouninck, il dit qui est maire de Toulouse LR. Ces radiations ont eu lieu à l'occasion de la mise en place du répertoire électoral national unique géré par l'INSEE. Et comme d'habitude, il y a des choses qui ne concernent absolument pas le citoyen. Il va et on lui dit, ah non, mais vous n'êtes pas sur la liste. Et alors, effectivement, ça la fiche mal, parce qu'il faut arrêter de dire, oui, il faut voter, il faut faire, effectivement, son devoir de citoyen, ce qui me paraît extrêmement important, mais enfin, je veux dire, c'est évidemment minoritaire par rapport aux 45 millions d'électeurs. Mais enfin, ce n'est pas normal que les gens qui ont une carte d'identité, qui sont reconnus, etc., ne puissent pas voter. C'est lamentable, et je crois que Karine Marchand avait tout à fait raison de protester. Ouais. Mais encore une fois, il y a eu des milliers de cas.
Il faudra les compter, justement, il faudra regarder, parce que ça n'arrive pas si souvent que ça en France. Et là, effectivement, c'est même arrivé dans mon bureau de vote, juste avant moi, qui vote à la campagne pourtant, ou dans un bureau de vote, on n'est pas très nombreux à être inscrits. Mais malgré tout, c'était un problème. Bref, restez avec nous sur Sud Radio. Berkoff reste dans tous ses états. Et dans quelques instants, place au face-à-face. André Berkoff reçoit son invité, l'intellectuel québécois Mathieu Bock-Côté, qui est auteur de ce livre, L'Empire du politiquement correct. C'est publié aux éditions du Cerf. Vous continuez d'ailleurs à commenter, hein, à poster vos commentaires sur le Facebook Live de Sud Radio. André Berkoff parlait de la participation. Mais tiens, un petit calcul qui nous est offert par Patrick Calogne sur Facebook, qui nous dit, c'est encore une fois la démocratie représentative qui a perdu, avec 50% d'abstention à peu près. Rassemblement National, en fait, c'est 12% des électeurs. En Marche, c'est en fait 11% des électeurs. Effectivement, c'est vrai. Continuons à sortir la calculette.
Exact. Et juste un moment, je crois, moi, que je suis pour le vote obligatoire. Alors... au moins, ça nous contraindrait.
André Berkoff, de moins en moins libertaire. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio. Berkoff dans tous ses états.
Eh bien, pour une fois et pour une bonne fois, c'est un Québécois qui va parler aux Français. Et effectivement, qui va nous parler de quelque chose qui, heureusement, est en train de se fendiller. Pas de disparaître, mais de se fendiller. Je parle évidemment du politiquement correct.
Cette Sud Radio. Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Ce Québécois dont vous parlez, André Berkoff, précisément, c'est votre invité face à vous, Mathieu Bock-Côté, pardonnez-moi, sociologue québécois et auteur de ce livre, L'Empire du politiquement correct, est publié aux éditions du Cerf.
Alors Mathieu Bock-Côté, je suis très heureux de vous recevoir. D'abord, ce n'est pas votre premier livre, il s'en faut. La dénationalisation tranquille, l'exercice politique, le multiculturalisme comme religion politique et le nouveau régime. Et puis là, vous attaquez à quelque chose que vous avez déjà dénoncé à plusieurs reprises et dans beaucoup de médias, qui est l'empire du politiquement correct. Est-ce que vous pensez quand même, je le disais, que, grâce d'ailleurs à vous et puis à certains autres, est-ce que ce n'est pas en train, ce politiquement correct, de se fendiller, même de, voire de s'ébrécher ?
Je crois qu'on doit avoir une vision assez double de la chose, c'est-à-dire d'un côté, il est remis en question, d'un côté, il y a une forme d'insurrection contre le politiquement correct. Plus encore, on peut croire que la révolte contre le politiquement correct alimente aujourd'hui la vie politique. Mais au même moment, ce politiquement correct tend à se radicaliser, c'est-à-dire inquiet de sa perte de maîtrise des codes de la respectabilité politique, inquiet de voir surgir des forces qui remettent en question ce que j'appelle le régime diversitaire, donc le multiculturalisme obligatoire, l'éparpillement des identités sur le mode victimaire, le politiquement correct tend à se radicaliser. Je donne quelques exemples.
Oui.
Il multiplie, par exemple, les phobies à dénoncer. Toute forme de désaccord avec le politiquement correct aujourd'hui n'est pas pensée comme un désaccord intellectuellement
comme
possible.
Comme la cageophobe dont parlait Philippe
Murray. Ouais. Donc, c'est là ce que j'appelle la psychiatrisation du désaccord. Dans la même logique, on peut croire que la chasse au dérapage est plus intense aujourd'hui que jamais. La volonté d'expulser du débat public les contradicteurs de l'idéologie officielle. Et un troisième point qui me semble peut-être le plus important,
oui,
il s'institutionnalise politiquement, c'est-à-dire qu'il se judiciarise. Je donne un exemple là-dessus qui me semble très fort, et on en a parlé il y a quelques mois, c'est le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, tout le monde en a parlé, mais apparemment on ne devait en dire qu'une chose, c'est qu'il n'était pas contraignant. Quiconque en disait autre chose passait pour fou ou pour fake news. Or, quand on lisait le pacte de Marrakech, il y avait une proposition forte qui a été signée par nos gouvernements, c'était de cesser le financement public des médias qui feraient la promotion du racisme, de la discrimination ou de l'intolérance. Or, quand on regarde la définition du racisme ou de la xénophobie qui nous était proposée, dans les faits, toute remise en question du multiculturalisme ou de l'immigration massive passait pour de l'intolérance. Donc, c'était multiculturalisme ou barbarie.
C'est-à-dire que vous-même, vous pouviez être condamné pour être publié dans un journal, ou le journal qui publiait Mathieu Bocoté pouvait être condamné pour dénonciation du multiculturalisme.
Oui, alors quand on regardez ça, quand on prenait la peine de lire les textes, donc on nous dira, oui, mais c'est pas encore, ça s'est pas traduit dans les lois. Un instant, soyons patients. Donc je crois que la tentation devant la remise en question de ces, justement, de ces contradicteurs, c'est la volonté de les dénoncer toujours plus violemment. On le voit aussi avec l'extension, par exemple, du domaine, ce que j'appelle l'extension du domaine du racisme. Le concept de racisme est de plus en plus étendu aujourd'hui pour désigner des phénomènes qui n'en relèvent pas. Autant le racisme est odieux et tous en conviendront, autant à associé au racisme, ce qui n'en relève pas, est aussi odieux. Mais or, non, quand aujourd'hui on assimile, par exemple...
Donnez-moi un exemple, oui.
Un exemple très québécois, mais qui aura un écho français. On a chez nous en ce moment ce qu'on appelle le débat sur le projet de loi 21. En gros, une laïcité minimaliste à la québécoise, interdire les signes religieux ostentatoires chez les employés de l'État en situation d'autorité. Policiers, enseignants, juges, gardiens de prison, procureurs de la couronne.
Bon, d'accord.
Eh bien, accusation de nettoyage ethnique, accusation de racisme, accusation de xénophobie, accusation de discrimination à grande échelle. Regardez le traitement réservé à la laïcité à la française dans les médias anglo-saxons, c'est intéressant. La laïcité à la française, quoi qu'on en pense, est présentée comme une forme d'autoritarisme anti-minoritaire. C'est l'Union soviétique à destination des minorités. On peut aussi regarder le débat sur le racisme structurel, le racisme d'État, racisme systémique. Ce concept s'étend de manière folle. Autre exemple de cette espèce d'extension des concepts qui deviennent un peu fous, ce que j'appelle l'alphabet recomposé. LGBTQI2+, et ainsi de suite. Alors, moi, je n'ai aucun mépris.
Lesbien, gay, trans et compagnie.
Ben voilà, alors moi, pour chacune des réalités ainsi désignées, moi, j'ai tout le plus grand respect, la question n'est pas là. Mais quand on met tout ça ensemble, on nous dit pas d'amalgame, mais qu'est-ce que toutes ces lettres viennent faire ensemble, sinon qu'une forme d'éparpillement infini de la subjectivité? Et si vous contestez cette espèce de nouvelle manière de penser l'identité, vous êtes accusé de transphobie. Alors, les phobies. Donc, je crois que l'espace public s'étend aujourd'hui une forme d'orwellisation de la parole publique. Et le dernier exemple, je me permettrai, c'est regarder le rapport justement au fameux vivre ensemble. Plus nos sociétés se décomposent, plus elles se fracturent, plus elles se partitionnent, plus les tensions identitaires sont vives, plus le sentiment de devenir étranger chez soi se radicalise. Au même moment, la propagande du vivre ensemble n'a jamais été aussi forte et on cherche à tout prix à nous faire avouer que nous vivons dans le meilleur des mondes. Alors tout cela mis ensemble crée un environnement idéologique et médiatique assez toxique. Oui, il est contesté, mais ça ne veut pas dire qu'il ne cherche pas à se maintenir à tout prix.
Alors justement, vous dites ça et c'est c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'ils cherchent évidemment à se maintenir à tout prix, mais pourquoi ? Et regardez comment ça se traduit, et je voudrais avoir votre avis, parce que nous sommes, et vous en parlez très très bien en tout cas, dans, que je recommande vraiment l'Empire du politiquement correct, parce qu'il s'agit, en fait on revient à Orwell, oui. Orwell avait tout dit de ce point de vue-là, sauf qu'aujourd'hui Orwell, on l'applique,
oui. Enfin,
certains essayent de l'appliquer. Et est-ce que aujourd'hui la ligne de fracture, on la voit quand même dans ces élections européennes qui ont eu lieu hier, enfin dont on a eu le résultat hier, est-ce qu'il y a, où est-ce que vous situez par exemple les gens, la querelle progressiste contre la lèpre populiste, anywhere comme somewhere contre anywhere, on voit très bien que, en tout cas certains populiste entre guillemets, s'est installé en Europe de l'Est, en Italie, l'Angleterre du Brexit qui a été confirmé, effectivement, le parti du Brexit. En France, on voit, il y a Macron d'un côté, Le Pen de l'autre, mais est-ce que ça ne représente pas presque cette espèce de fracture dont on parle?
Oui, ben là, je crois qu'on assiste devant ça à une nouvelle ligne de fracture autour de la question du régime, c'est-à-dire pas au-delà de la 4e, 5e République, mais la notion de régime, c'est-à-dire la traduction que nous faisons de l'idée de démocratie. Or, aujourd'hui, plutôt que d'accepter justement qu'il y a plusieurs conceptions de la démocratie qui s'affrontent, le système médiatique dominant tend à nous dire un instant, et là ce sont les termes macroniens, c'est d'un côté le progrès lumineux, radieux, qui pousse à la société ouverte, et de l'autre côté la lèpre populiste, version réinventée de la peste brune, on s'entend. Et toujours, c'est la logique de la contamination qui est utilisée pour parler de l'adversaire. De la peste à la lèpre, on comprend ce dont on parle. Et on nous disait quelquefois, oui, mais il n'a pas parlé des lépreux. Il ne faut pas nous prendre pour des fous. C'est-à-dire, la lèpre fait des lépreux. Il faut être sérieux. Alors,
il faut diaboliser, quoi. Il faut diaboliser.
Voilà, logique de ça. Diabolisation. Ouais. Et ça, je crois qu'il émerge partout en Europe, effectivement, ce conflit sur quel est le cadre de la souveraineté. Qu'est-ce qu'un peuple? Donc ce conflit, il est partout visible, mais il n'est présenté la plupart du temps que sous le signe de l'inquiétude, vous savez, quelque chose de musique de fond, musique d'ambiance, style film d'horreur, sur la montée des populismes. Et moi, c'est une question que j'aime poser à ceux qui s'en inquiètent, peut-être à raison, c'est mais qu'entendent-ils par populisme? Et la plupart du temps, la définition tarde à venir. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui dans le populisme, au-delà d'un style politique, au-delà d'une manière de gouverner, le carburant, on pourrait dire, sociologique et politique du populisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'un côté le refus de la perte de la décision politique. Donc nos sociétés qui ont peu à peu passé de la souveraineté populaire au gouvernement des juges en maquillant ça au nom de l'état de droit, eh bien il y a une volonté de retour aux politiques. Ensuite, le rapport au peuple. Est-ce que le peuple, fondamentalement, c'est une entité historique, culturelle, avec son identité, ou est-ce que c'est une addition d'individus ou de minorités, mais sans substance? Ça, c'est donc, autrement dit, multiculturalisme ou nation. Mais or, à ce que j'en sais, la décision politique, le sens de la nation, l'identité nationale appartiennent à l'univers de la démocratie libérale. Bien sûr. On pense à un Raymond
Depuis
Aron,
toujours,
oui, mais un Aron, un De Gaulle, un Churchill n'étaient pas étrangers à tout cela. Et aujourd'hui, le grand paradoxe de notre temps, c'est qu'on tend à condamner au nom de la démocratie libérale ce qui a permis de sauver la démocratie libérale quand elle était en danger au XXe siècle. Churchill, De Gaulle n'étaient pas exactement des pré-68ards en culotte courte. Ce n'étaient pas exactement des individus chétifs et attiédis. Ils portaient une forme de patriotisme tragique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce qui a permis de sauver la démocratie, aujourd'hui, on veut le condamner au nom de la démocratie. Je ne suis pas certain que cette représentation du monde soit convaincante.
Et alors, est-ce que vous pensez que, pour ne parler que de la France, mais même ailleurs, un mouvement comme celui des Gilets jaunes, Mathieu Bock-Côté, ça m'intéresse, qui est un mouvement qui a échappé à toute définition, sans chef. D'ailleurs, on a bien vu, et c'était tout à fait normal, que les pauvres listes Gilets jaunes qui sont présentées ont fait 0,5. Ben, ça ne représentait rien, y compris chez les Gilets jaunes. Mais pour vous, c'est l'expression, la manifestation de quoi?
Ben, dans un pays où, appelons ça le moment populiste était entravé en bonne partie parce qu'il s'exprime à travers le Rassemblement national, qui est marqué par la famille Le Pen, et plus largement qui touche à une histoire on pourrait dire, il y a des épisodes du 20e siècle qui contaminent cet élan. Donc, le mouvement populiste qui était bloqué politiquement, on l'a vu au moment du deuxième tour de la présidentielle, devait prendre un autre chemin. Et je crois que c'était l'insurrection, pour reprendre les mots de Guy Louis, de la France périphérique. Mais il y avait aussi quelque chose, c'était aussi la France des invisibles, j'explique. Il n'y avait finalement que deux catégories d'exclus légitimes dans les médias pendant longtemps. C'était soit l'exclu identitaire classique, donc celui, la figure, donc on
l'immigré.
Soit l'immigré, soit les nouvelles formes de minorité sexuelle possibles. Mais la France enracinée, oui. Banale, ennuyante, oui. mais qui
le français moyen, quoi.
Qui existe, on a décrété son inexistence, mais il existe, et bien, et qui sent de plus en plus peser sur lui des contraintes économiques, identitaires fortes, et bien un jour, et par ailleurs dans un pays qui poétise l'insurrection, la France est ce pays où on croit que le peuple dans la rue est le peuple véritable. C'est assez étranger de ce point de vue, la culture, ouais, c'est la culture révolutionnaire. Vrai. Alors, mettez tout ça ensemble, les Gilets jaunes, à tout le moins dans les premières semaines, ont exprimé cette révolte de la commune des Sensi. Ensuite, le mouvement a été détourné, récupéré par l'extrême-gauche, on le voit dans le culte de la violence, mais ne faisons pas l'erreur de condamner les premières semaines au nom des dernières.
Tout à fait, on va continuer à en parler avec Mathieu Bock-Côté.
On reste sur Sud Radio avec André Bercoff, son invité Mathieu Bock-Côté, intellectuel québécois qui, par ailleurs, est l'auteur, je vous le rappelle, de ce livre « L'Empire du politiquement correct ». C'est publié aux éditions du Cerf. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Le face-à-face.
André Bercoff face à son invité Mathieu Bock-Côté, sociologue québécois et auteur de ce livre « L'Empire du politiquement correct », publié aux éditions du Cerf.
Mathieu Bock-Côté, on discutait effectivement du politiquement correct. Encore une fois, je recommande vraiment votre livre parce qu'il remet beaucoup de pendules à l'heure, surtout quelques pendules justement du chantage à la contamination, du chantage à la diabolisation, du chantage comme d'habitude, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est pas nouveau et ça continue à marcher. Mais je crois quand même de moins en moins, heureusement. Et si l'on en voit, Mathieu Bock-Côté, les résultats d'hier, je regardais comme ça dans l'Europe, hein, pas seulement évidemment en France. Bon, en Allemagne, il y a eu un triomphe des Verts, mais la CDU a diminué. Juste, le parti du Brexit est largement en tête. On disait que le Brexit, il y avait un nouveau référendum, les Anglais rejetteraient le Brexit. Bon, la Ligue de Salvini est en tête en Italie. Large victoire du parti de Viktor Orban en Hongrie. En Grèce, la gauche de Tsipras sanctionnée. Les socialistes, effectivement, ont gagné en Espagne, la Belgique percée de Vlaams Belang en Flandre très fort, et les conservateurs au pouvoir en Pologne l'emportent, et la ligne de Kurz en Autriche également. Est-ce que vous pensez que, effectivement, on a parlé du populisme, et quand vous dites le populisme, moi je dis, les gens qui n'aiment pas le peuple, on l'appelle populiste, hein, vous savez, la phrase de Brecht,
oui, bien sûr,
il faut dissoudre le peuple, ouais. Voilà. Bon, mais est-ce que vous croyez que aujourd'hui, enfin, on ne va pas faire est-ce que c'est en train vraiment de se consolider, voire de s'en raciné.
Alors, oui, ce qu'on appelle les populismes, oui, bien qu'encore une fois, il faudrait, d'un pays à l'autre, les mouvements sont assez différents. Parce que par définition, je dirais le populisme et le conservatisme, sans s'identifier, se recoupent souvent. Or, tout conservatisme est particulier par définition, et tout populisme, je dirais, cadre avec la psychologie, la culture politique propre du peuple, alors que le progressisme a tendance à se vouloir universel et se déployer partout de la même manière. Ouais. Mais ce qui est certain, cela dit, c'est qu'il y a des aspirations profondes qu'il semble aujourd'hui difficile on peut difficilement nier leur déploiement. Par exemple, la volonté de retrouver une forme d'enracinement. La critique devant l'immigration massive, qui est justement cette critique est massive aujourd'hui. Et quoi qu'en pense une bonne partie des élites politiques et médiatiques, ils sont de moins en moins nombreux à croire que c'est une chance exceptionnelle pour nos pays, pour notre civilisation. Donc, il y a, oui, cette contestation dont la traduction politique tarde encore. On dit, oui, il y a les populismes, mais on sent que c'est encore flagellant. On sent qu'il pourrait y avoir d'autres traductions possibles de ces mouvements. Mais au même moment, je me permettrai de vous donner un exemple que vous connaissez bien, je crois, l'exemple Trump. Ce qui est assez intéressant avec l'exemple Trump, c'est que Trump a été élu en bonne partie en contestant le politiquement correct.
Tout à fait.
Mais
à lui, complètement.
C'était son carburant, c'est-à-dire il parvenait à faire dire aux communs des mortels, lorsqu'on me vomit, on vomit sur moi, c'est sur vous qu'on vomit, en fait. Mais vous noterez qu'une fois Trump élu, eh bien, le politiquement correct, loin de se relativiser, de se questionner, s'est radicalisé.
Absolument.
Parce qu'il trouvait là la confirmation dans ce personnage, quelque peu ubuesque quelquefois, la confirmation de son droit au mépris, de sa confirmation de son droit à la condescendance.
Sauf que ce qui est très intéressant, et là on arrive en prenant et en restant sur l'exemple Trump, Mathieu Bock-Côté, c'est qu'on a vu quand même ses résultats. Ce type qu'on considérait comme fou et comme clown, on voit les résultats en matière économique, en matière de chômage, en matière de croissance, etc. etc. Or, S'il se continue comme ça, d'ailleurs, il risque d'être réélu en 2020, c'est clair. Mais justement, la radicalisation, c'est que du coup, c'est extraordinaire parce qu'à un moment donné, on perd son sang-froid, on veut faire l'impeachment.
Oui. Et moi, mais voilà, ça, vous avez dit le mot important, je crois. Depuis son élection, avant même qu'il soit la cérémonie d'intronisation, avant même ça, la question de l'impeachment était posée. Et moi, ce qui m'a fasciné, la question de l'impeachment, en fait, accompagne la présidence Trump à la manière d'une perpétuelle remise en question de sa légitimité. Donc, au-delà des questions réelles qu'on pourrait lui poser, je pense qu'il n'y aurait aucun dossier sérieux contre lui que la question de l'impeachment se poserait parce qu'on a cette idée qu'il est fondamentalement illégitime. Et vous remarquerez aussi de la même manière, quand le Brexit passe, eh bien, très rapidement, le système médiatique déploie des ressources incroyables pour disqualifier le résultat. On nous disait globalement qu'est-ce que c'était, les gens qui étaient pour le Brexit, victimes de fake news, des gens exagérément blancs, exagérément régionaux, des édentés malodorants, le petit peuple sans
intérêt. Le panier des déplorables dont parlait Hillary Clinton.
Exactement. Alors, il y a toujours cette idée que lorsque le peuple vote mal, c'est soit qu'il a été mal conseillé, mal orienté, ou alors qu'il exprimerait ses préjugés.
Soit qu'il est crétin.
Et on a cette idée comme quoi, fondamentalement, un démocrate éclairé, sincère, de bonne foi et bien informé, par définition, ne pourrait qu'embrasser le progressisme incandescent. Et ça, c'est le véritable l'angle mort de la pensée politique dominante aujourd'hui, c'est que nos progressistes sont persuadés qu'un homme intelligent ne peut qu'être en accord avec eux. Ils n'imaginent pas un désaccord légitime, rationnel.
Oui, sauf que vous rejoignez, c'est très intéressant cette histoire, ça rejoint quand même les querelles quand la Russie était l'Empire du Bien et que quiconque parlait des camps de travail en URSS était une hyène dactylographe, un hitléro-fasciste et autre, un hitléro-trotskiste, pardon. Mais juste un mot, Mathieu Bocoté, un exemple parfait qu'on a connu, nous, en 2005, quand il y a eu le référendum sur la Constitution européenne, alors je me rappelle, c'était que 55% des Français ont voté contre. Le système médiatique, en tout cas un certain nombre de gens, les ont insultés. Ici en France, ils disaient « bande de crétins, vous n'avez rien compris, vous êtes nuls ».
Ils ajoutaient qu'on n'aurait pas dû tenir le référendum puisqu'il n'a pas donné les résultats souhaités et que par ailleurs, au fond, lui-même, le peuple exprimait un désir d'Europe contrariée. Donc autrement dit, dans un cas comme dans l'autre, le système gagnait. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, pour reprendre votre question qui est fondamentale, est-ce que ces mouvements de contestation sont en train de s'incarner durablement, s'enraciner durablement? L'exemple italien est intéressant de ce point de vue. Peu importe qu'on y adhère ou non, la question n'est pas là. En Italie, ce qu'on appelle le populisme est passé. Il faut dire que la fonction tribunicienne est moins forte en Italie. Mais il est passé néanmoins de la fonction tribunicienne, de l'opposition systématique incandescente au gouvernement. Il est parvenu à quitter, autrement dit, parce que le populisme s'était déployé dans la fonction tribunicienne depuis les années 90.
L'opposition,
l'incarnation du peuple, mais qui n'existe que dans l'opposition et la dénonciation. Et là, il fait l'expérience du pouvoir. La question, je crois, dans les prochaines années, c'est de voir dans quelle mesure ce populiste sera capable de faire l'expérience du pouvoir, et il ne le pourra, à mon avis. Et ça, c'est un élément de recomposition qu'en intégrant, il n'y a, je dirais, en politique de révolution, de guillemets, que lorsqu'on est capable de récupérer une partie du monde ancien. Il n'y a pas de rupture absolue dans l'histoire. Donc, une partie des élites dites conservatrices, dites classiques, vont, ici et là, dans tous les pays, ça ne se passera pas de la même manière, mais de nouvelles alliances vont surgir inévitablement entre Buisson, aime dire, les classes populaires et une partie de la bourgeoisie, autour, je crois, d'une nouvelle pratique du pouvoir pour restaurer globalement la souveraineté nationale, la souveraineté populaire et restaurer la légitimité d'un contrôle de l'immigration et d'une assimilation des populations qui nous rejoignent.
Et ça demande, mais je vais vous dire, et ça non seulement ça suppose, mais ça implique le réapprentissage de l'histoire, ce n'est plus du passé, faisons table rase.
Vous avez réapprentissage de l'histoire, vous avez absolument raison sur deux plans. Premièrement, l'histoire, on ne devrait jamais l'oublier, est un réservoir de leçons politiques pour penser l'action politique. Hein. On a voulu nous dire depuis 20 ans que l'histoire ne fournissait aucune leçon. C'est faux. Michel de Gégère a sur ces questions dans son livre La Compagnie des Ombres, des pages lumineuses. Et de l'autre côté, réapprendre l'histoire pour se délivrer des mythes incapacitants. C'est-à-dire, quand encore une fois on nous dit le sentiment national mène à la guerre, et bien le sentiment national mène aussi à la libération et pousse aussi à la plus belle des dissidences. Pensons à cette Genestine. C'est-à-dire, ce n'est pas au nom d'une vision désincarnée des droits de l'homme qu'il a su résister, mais aussi au nom de l'orthodoxie. De la Russie éternelle. Donc vous voyez les motifs. Il y a une histoire du totalitarisme à écrire. Je pense qu'aujourd'hui, on vit pas dans le monde totalitaire, mais la tentative totalitaire ressurgit à travers le politiquement correct. Et il y a une histoire de l'antitotalitarisme à écrire. Au nom de avons-nous été capables de résister au totalitarisme au fil de l'histoire? Et là, c'est là qu'on redécouvre sa part inavouée. Mais la part, c'est l'histoire de l'enracinement, c'est l'histoire du sentiment national, c'est l'histoire du patriotisme, c'est l'histoire de la conscience de civilisation.
et qui n'est pas du tout justement, il y a des identités heureuses et pas meurtrières.
Mais bien sûr,
mais bien sûr. Mais justement, il faudrait, j'espère que vous l'écrirez. Ça
mais l'homme a besoin d'habiter le monde. Vous savez, c'est cette idée comme quoi l'homme ne deviendrait véritablement libre qu'en s'arrachant toutes ses appartenances, en s'arrachant sa langue, sa culture. C'est une idée terriblement asséchante, terrifiante, qui décharne l'homme. Et l'homme est riche de ses enracinements. C'est en plongeant dans la singularité de sa propre culture qu'il peut toucher l'universel. Pensez l'œuvre de Milan Kundera. Moi, ça me frappe. Les plus grands écrivains sont ceux qui, à partir d'un coin du monde qui est le leur, sont parvenus à l'universaliser admirablement.
André Gide, ce n'est que par le particulier qu'on atteint en général.
Mais absolument. Et je crois que là-dessus, les grands écrivains américains, européens, français, où je vais donner Kundera, je pourrais donner d'autres exemples, touchent l'universel à partir de leur singularité propre. Je pense que de ce point de vue, même la littérature nous apprend l'importance fondamentale des patries, ne serait-ce que par la médiation d'une langue.
Et alors, est-ce que vous croyez, justement, alors pour parler du présent et en tout cas de l'avenir proche, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui cette, comment dirais-je, la nécessité effectivement de se battre, et alors se battre avec les moyens du bord? Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui a libéré aussi, malgré qu'on les accuse, fake news, alors que fake news c'est depuis les Romains, et même avant, et les réseaux sociaux, à votre avis, ont joué un rôle plutôt positif ou plutôt négatif dans cette espèce d'éparpillement au bon et au mauvais sens du terme de la pensée?
Les deux. C'est-à-dire positif, je crois, parce que les réseaux sociaux permettent de découpler l'espace public de l'espace médiatique. Les grands médias avaient colonisé l'espace public depuis trop longtemps et monopolisé les codes du disciple. Ils avaient le monopole de l'interprétation légitime du réel. Et les médias sociaux permettent de critiquer en disant aux médias, vous n'êtes pas un contre-pouvoir, vous êtes le pouvoir. Donc les médias sociaux permettent de présenter les faits autrement, permettent au peuple de se réapproprier le récit de sa propre expérience. Très bien. Permet aussi à des courants de pensée qui étaient étouffés dans le système médiatique de se présenter autrement que sous le signe de caricature ou d'être seulement écarté du débat. Négatif, évidemment, parce que les médias sociaux ont développé aussi une culture du lynchage, une culture du vide ordure. C'est qui va-t-on pendre aujourd'hui? Qui va-t-on mépriser aujourd'hui? C'est la culture du like, c'est la culture de l'inculture aussi. Mais je pense que dans tous ces phénomènes, il y a toujours une part lumineuse, une part sombre, mais je crois qu'il ne faut pas nier la part un potentiel de démocratisation véritable dans les médias sociaux. Encore là, soyons très critiques, mais voyons qu'ils permettent aujourd'hui à la parole populaire de se délivrer de la chape de plomb qui l'étouffait.
Je dirais, comme le camarade Georges Marchais, le bilan est plutôt globalement positif.
Oui, dans les circonstances.
Dans les circonstances actuelles. Mathieu Bocoté, vous, par exemple, aujourd'hui, justement, vous êtes entre le Québec et la France, on vous connaît très bien, on vous lit, on vous apprécie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore, vous le sentez, que ce soit au Québec ou en France, une espèce d'omerta ou encore une censure vis-à-vis de vous, disant oui, on veut bien, mais lui, on l'aime pas beaucoup?
Ça dépend des questions. Je dirais, chez moi, à la fois, je participe au débat public et je n'y participe, pour certains, le simple fait d'y participer, ça leur cause problème. C'est-à-dire, ils entendent une voix autre que celle qu'ils voudraient entendre. Je pense que le politiquement correct continue de peser. Je note, et ça marque toujours mes amis français, mais je pense que la liberté d'expression en France est beaucoup plus grande qu'on ne le croit. Oui, elle a tombé, elle a baissé par rapport aux dernières années, enfin, par rapport plutôt à la culture et l'histoire du pays.
Par rapport aux des proches, j'ai connu chez compagnie, oui.
Voilà, il y a une histoire riche de la liberté d'expression en France. Ouais. Aujourd'hui, elle est contenue, elle est cadenassée, mais c'est un peuple qui a une telle culture du débat, une telle passion du débat, une telle passion de la contradiction que même les lois quelquefois les plus ubuesques, les plus délirantes ne parviennent pas à empêcher les Français de débattre de ce qu'ils veulent de toutes les manières possibles. Je crois que ça fait partie des plis les plus intimes de la culture nationale, alors que chez nous, on a le droit de tout dire, mais finalement, on a envie de rien dire.
Oui, vous savez, c'était, en tout cas, ça fait plaisir que quelqu'un, justement, de l'autre côté de l'Atlantique vienne nous dire ça, et c'est parce que quelquefois, on a des doutes, mais on aimerait que ce ne soit pas, vous savez ce que disait quelqu'un, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Merci Mathieu Bocoté.
Merci Mathieu Bocoté. Causez toujours et lisez toujours, en tout cas. L'Empire du politiquement correct, c'est le titre de votre ouvrage publié aux éditions du CERF. Merci à vous, André Bercoff. On retrouve demain à midi en direct dans tous vos états sur Sud Radio. On peut aussi réécouter cette émission, Bercoff dans tous ses états, en podcast sur sudradio.fr ou également en vidéo sur la page Facebook de Sud Radio. Quant à nous, les amis, eh bien, on poursuit notre journée. On va faire une petite pause politique. Vous-même, vous en avez besoin aujourd'hui, puisque dans quelques instants, on retrouve Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, l'invité de Jacques Pessis, le journaliste sportif Gérard Holz. Et oui, on approche de l'été, les amis, et on approche du Tour de France. Ça vous rappellera quelques souvenirs. Alors profitez-en bien, Jacques Pessis, avec les clés d'une vie, les clés d'une vie de la vie de Gérard Holz. À tout de suite sur Sud Radio.